Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bienvenue à tous à ce numéro de Parole aux auditeurs. Plusieurs cas de naufrage ont entraîné la mort des dizaines de personnes ont été enregistrés sous les lacs et cours d'eau de la République démocratique du Congo depuis le début de cette année. Le non-respect des consignes de navigation serrées à la base et ces accidents mortels. Quelles pourraient être, selon vous, les mesures les plus efficaces pour mettre fin à ce drame? Pour participer à cette émission, vous avez deux possibilités. Vous pouvez nous appeler au 081 890 49 69 ou au 081 890 63 30. Vous pouvez également nous écrire à pa@radiocapi.net ou nous laisser un message sur notre page Facebook Parole aux auditeurs. Pierrot et la Meji réalisent cette émission. La mise en onde est de Polydor Basunga. Je suis Nico Kalambay. Encore une fois, bienvenue à ce magazine Parole aux auditeurs. Notre invité est le professeur Serge Pangou, géographe et hydrologue, consultant au projet d'appui à la navigabilité du fleuve Congo. Professeur, bonjour.
Bonjour, Nico.
Le 26 mai dernier, il y a eu un naufrage sur le lac Maïndombé. Ce naufrage a fait 22 morts, tous des enseignants qui allaient d'ailleurs toucher leur salaire. Mais un mois avant, il y a eu un autre naufrage sur le lac Kivu faisant 13 morts et 144 disparus. Avant de parler des mesures efficaces pour mettre fin à ces naufrages, quelles seraient selon vous les causes de ces naufrages à répétition?
Merci Nico, merci à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. Et c'est comme je l'ai toujours dit, s'il y a un naufrage, c'est d'abord un, parce que les embarcations qui sont pratiquées sur nos lacs et nos fleuves sont très précaires, ça c'est un. De deux, le personnel navigant est vraiment... n'est pas formé pour la plupart, et de trois, il n'y a pas de contrôle de ce secteur, surtout à l'intérieur du pays. Et quatre, il y a ce qu'on peut dire un manque de suivi dans ce qu'on appelle le balisage des voies navigables. Alors, le plus grand problème, c'est quoi aussi? C'est que les embarcations, disons les chargements des embarcations, mais est laissé à l'appréciation du propriétaire de l'embarcation. Et là, les services spécialisés n'interviennent pas. C'est ce qui fait, pour moi, les causes les plus probantes pour ce qui amène à ces accidents.
Alors, vous avez fait allusion un peu à l'usage des navires vestus. Vous avez dit à l'excès des charges que les navires embarquent, mais aussi au manque de contrôle. Mais selon vous, pourquoi les services maritimes concernés ne vérifient pas si le bateau peut vraiment quitter l'embarcadère? Parce qu'il y a généralement beaucoup de chargements sur ce bateau, comme vous l'avez évoqué.
Voilà. D'abord, reculons un peu dans le temps. Si vous saviez, si vous avez un peu de recul sur l'histoire de notre pays, le Congo a autrefois été un des poumons de l'économie d'Afrique. Pourquoi? Justement, encore des exportations de ces produits agricoles et miniers. Mais alors, que faisait le colonisateur autrefois? C'est que ces voies de navigation terrestre étaient reliées par de routes et c'est eux qui faisaient que nous puissions drainer toute la production vers les ports fluviaux. Et dès quelques années après, on a suivi le délabrement d'abord de tous les circuits de mesurage, disons, des prélèvements des niveaux d'eau. Et il y a eu ensuite, toute la disparition, la disparition des signaux des rives, des signaux des balisages, et enfin, la négligence a suivi jusqu'à ce que les ports même de l'ex-Sumatra ont commencé à fermer un à un. Et vous voyez, avec ça, c'est comme si l'État avait levé sa main pour dire que bon, la navigabilité n'était plus un domaine essentiel. Et au contraire, vous avez vu, même avec les 5 chantiers, on a privilégié d'aménager les routes. Heureusement que d'ailleurs est venu ces projets qui est venu appuyer un peu la RDF, qui est notre régie, notre office de route, si je peux le dire, des voies fluviales et l'APUS. Et cette entreprise, si vous y allez, vous allez voir, c'est une entreprise qu'on est en train, heureusement, de rééquiper, mais qui est loin de sortir de l'auberge. C'est-à-dire que ces points de négligence ont fait que nous puissions perdre, au fait, tout le circuit de contrôle et de balisage, si je peux ainsi dire, de planification de cette navigation. Et aujourd'hui, le projet PANAV, qui est aujourd'hui appuyé par l'assistance opérationnelle de la GIZ, je réistifie, parce que moi je suis engagé là comme consultant à la GIZ, donc pour l'assistance opérationnelle. Mm-hmm. Donc j'assure les formations et j'assiste techniquement la mise au point de certains équipements et leur maintenance. Et donc, voilà, Nico, un peu, en gros, ce que je peux dire jusque-là.
Voilà, mais quels sont aujourd'hui, parce qu'on a, j'ai souligné quelque chose, vous avez insisté sur la négligence, mais aujourd'hui, quelles sont, selon vous, les mesures efficaces qu'il faut prendre pour mettre fin à ce problème?
Très bien. La première mesure la plus efficace, d'abord, c'est de doter la RDF des moyens de sa politique, c'est-à-dire doter la RDF d'une police fluviale compétente et capable d'agir, opérationnelle. De deux, donner des moyens nécessaires pour déployer les équipes de la RDF dans tous les ports fluviaux. Et troisièmement, remettre en service tous les ports fluviaux de la STP, pour que cela soit d'abord de point ou de point d'ancrage de ce contrôle dont nous avons parlé plus tôt. Et enfin, je disais qu'il fallait aujourd'hui qu'on dispose d'une carte, disons, revisée ou mise à jour du fleuve Congo de Kinshasa jusqu'à Kisangani et du Kasaï jusqu'à Ilebo, il convient maintenant qu'on aille dans les autres cours d'eau et sur les lacs également pour essayer de tendre ces circuits de balisage des voies fluviales comme c'était à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur les lacs Maïndombe, vous allez trouver qu'il n'y a plus de signaux de balisage, c'est-à-dire que les navigants vont à volo, c'est-à-dire chacun se débrouille selon ses connaissances personnelles. Mmh. Et de trois, il faille qu'on mette, disons, à profit l'existence d'une école de formation des navigants, l'école de navigation qui est sur Victoire. Vous voyez un peu au quartier Kauka là-bas. Mmh. Et donc, là, on peut former. Il y a des gens qui sont formés chaque année là-bas et voilà, qui trimballent ici comme chômeurs. Mmh. Il faut que l'État puisse instituer, comme il le fait sur la route, le permis de navigation. C'est-à-dire qu'on ne confie pas des embarcations
à n'importe qui.
À n'importe qui. Mmh. Et de trois, que la police fluviale soit dotée d'un corps d'inspecteurs qui serait basé à la RVF et affecté à tous les ports et qui contrôlerait le tonnage, la qualité technique, disons tous les aspects techniques de l'embarcation qui va naviguer. Ensuite viendrait le temps de divulguer un peu toutes ces cartes des navigations qu'on a mises à jour,
oui.
Et ensuite étendre, comme j'ai dit, le réseau des signaux des balisages à tous les cours d'eau qui sont pratiqués aujourd'hui.
Et voilà.
Nous sommes très très loin d'avoir fait le travail.
Voilà, avant de passer au standard et recevoir les auditeurs qui se bousculent au téléphone et qui veulent intervenir, professeur Serge Pangou, un autre auditeur nous a laissé un message sur notre page Facebook. Lui, il ajoute à tout ce que vous avez dit qu'il faut aussi limiter les heures des opérations. Il estime que les embarcations partent à n'importe quelle heure. Comme vous l'avez dit, on revient toujours au problème de contrôle. Il estime aussi que c'est un problème très important. C'est une des causes.
Exact, exactement. Parce que quand on parle contrôle, c'est-à-dire qu'on doit d'abord faire comme un canevas de ce qu'on appelle les possibilités de navigation. C'est-à-dire, d'abord, notre fleuve n'a pas des signaux de balisage lumineux. C'est-à-dire, la nuit, il n'y a presque rien. Donc, tout est noir. Et de qui plus est, nous sommes sur l'eau. Et donc, il fait souvent, sinon il y a un temps de brouillard qui est permanent, ou alors il fait carrément sombre. Et donc on ne voit pas. Et souvent on utilise des torches, des simples torches à pile là, mm-hmm. pour voir la route, ce qui est
vraiment... Et du coup c'est compliqué.
Voilà. Et donc je disais que ça aussi, c'est-à-dire que dans le code de contrôle, l'inspection de navigation là, aurait devra déterminer le temps de navigation. Parce que lorsque vous quittez, par exemple, Kinshasa pour aller à Kwamut, vous devez savoir combien de temps ça prend.
Mm-hmm.
Mais si vous quittez à 18h, vous savez que vous allez y arriver la nuit. Et souvent, pourquoi on navigue la nuit? C'est pour échapper aux petits contrôles qui existent encore.
Voilà.
Et justement, comme ça, on embarque tout ce qu'on veut, mm-hmm. qui on veut, quoi on veut. Et puis, vous savez que y a pas que ces accidents, mais il y a aussi que ces petites embarcations qui viennent bonder des mondes, c'est également des lieux de débauche de tout genre.
Mm-hmm.
Et donc, il y a à boire et à manger.
À boire et à manger. Professeur, on revient à vous dans quelques instants. Le temps pour nous de rejoindre Olivier et Martin qui nous attendent au standard.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre. Mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs.
Si vous nous rejoignez, bienvenue à Parole aux auditeurs. Martin nous appelle de Calémie. Martin, bonjour.
Bonjour, monsieur J.R. Bonjour à tous les milliers des auditeurs de la radio Capi qui nous suivent en ce net moment.
Voilà, Martin, je viens de le dire, vous êtes à Calémie. Et vous pensez que ces naufrages sont dus au fait que le comportement des agents affectés au service de navigation qui se contentent seulement de percevoir indûment de l'argent des transporteurs au lieu de veiller au strict respect du code de navigation. C'est ce que vous avez écrit sur notre page Facebook.
Justement, monsieur J.R., vous savez quoi, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Vous avez bien souligné dans votre sujet d'ailleurs que les différents naufrages observés ça et là sur toute l'étendue de la République sont dus au non-respect des consignes de navigation. Ça, c'est vrai. Vous savez quoi, monsieur J.R., au stade actuel, ce sont les transporteurs qui imposent des règles au niveau des services qui sont chargés d'effectuer ces contrôles-là. Les règles de l'État sont bafouées parce que ces agents se laissent faire avec des petites enveloppes qu'ils reçoivent des transporteurs. Et par conséquent, c'est la dignité de l'homme congolais qui est hypothéquée à cause de cette situation. Vous savez quoi? Aujourd'hui, les tonnages n'est plus respecté, les embarcations, les navires opèrent quand...
Alors, quand Martin...
Les navires opèrent n'importe quand. On ne sait plus si il existe des règles qui régissent cette matière.
Alors, Martin, tu nous écoutes? Alors, Martin, on ne va pas s'attarder sur les causes. Hein. On en a assez parlé avec notre invité. Nous allons tout de suite parler des mesures qu'il faut prendre parce que notre invité s'est attardé là-dessus. Hein. Il a énuméré les causes de ces naufrages. Mais nous en sommes maintenant aux mesures. Selon vous, après avoir suivi notre invité, quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour mettre fin à ces naufrages?
Monsieur J.R., je demanderai premièrement... au service des tutelles, ou soit au ministère des tutelles, de veiller d'abord sur la qualité du personnel qui œuvre dans ce secteur. Mmh. On doit améliorer la qualité du personnel. On ne doit pas chercher des gens qui ne connaissent absolument rien à la matière. Les gens doivent être formés, pour travailler dans ce secteur. Et aussi limiter les aires d'embarcation, comme l'invité l'a bien souligné, et respecter aussi les tonnages. Voilà. Faisant ainsi, nous pouvons voir une certaine amélioration dans cette matière.
Merci beaucoup, Martin, d'être intervenu de Calémie. Vous appeliez de Calémie, comme je viens de le dire. Et nous retrouvons Olivier qui est à Kikwit. Olivier, bienvenue à Parole aux auditeurs.
Oui, Nico, bonjour et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
Bonjour Olivier, vous venez donc de suivre Martin, qui lui a quand même ajouté un autre élément important, et il parle de la corruption. Bon, c'est vrai que c'est une cause, mais il estime qu'il faut mettre fin à la corruption, parce que ceux qui sont censés faire ce contrôle sont quelquefois corrompus, et du coup, il laisse aller. Voilà, il estime qu'il faut mettre fin à cette corruption. Vous êtes d'avis avec lui?
Oui, oui, ça c'est un élément. Oui, Nico, vous conviendrez avec moi que partout où il y a irrégularité, eh bien sachez que derrière ça, à la base, il y a la corruption. Ça c'est vrai, c'est un élément. Mm-hmm. Mais moi, je vais ajouter autre chose. Parmi les mesures, je crois que nous devons combattre le silence de l'autorité. Mm-hmm. Nico, sachez que depuis que ça a commencé, ces histoires de naufrages, vous descendez, vous reculez jusqu'à 2010, 2007, 2005, les naufrages sont réguliers. Et l'autorité est toujours silencieuse. Et d'ailleurs, la phrase à laquelle on est déjà habitué aujourd'hui, c'est « des enquêtes sont en cours pour essayer de déterminer les causes de ce naufrage ».
Et ces enquêtes sont toujours en cours.
Toujours en cours jusqu'à aujourd'hui. Et... dernièrement, après le naufrage sur le lac Kivu, le président a dit « Nous allons identifier et sanctionner les auteurs de naufrage. Mm-hmm. » Je pense qu'il voulait dire les coupables.
Oui.
Mais, alors, vous comprenez que donc, ça c'est un deuxième élément. Sanctionner les coupables. Nico, ça c'est l'élément qui est à la base du développement. Les malfaiteurs doivent être sanctionnés. Et chez nous, c'est toujours le silence total parce qu'il y a X et Y qui se connaissent ou qui se protègent. Et donc, on ne sanctionne jamais personne. Alors, le troisième élément que je trouve très important aussi, c'est que l'État doit montrer l'exemple. Nico, il y a le problème de l'offre et de la demande. Dans cette histoire de transport, si vous prenez Kikwit par exemple, vous voulez aller à Bandounouville, je vous rappelle que nous, sur le plan administratif, nous dépendons de Bandounouville. Donc, pour n'importe quel petit dossier, il faut aller à Bandounouville. Mm-hmm. Mais il n'y a rien pour vous transporter. Donc, la première pirogue qui se présente, vous voyez tout le monde qui veut aller à Bandundu monte dans la pirogue. Nous avons des hôpitaux. Il y a l'hôpital de Vanga. Les gens qui veulent aller à l'hôpital de Vanga, c'est pirogue, baleinière, dans n'importe quelle condition. Parce que l'État n'a rien mis pour corriger la situation. Mmh. Ça, c'est une histoire. Alors, quand vous prenez les cours d'eau qui nous entourent, vous prenez les villages qui nous entourent avec la production agricole, Nico, un peu partout, c'est sont des pleurs. Les gens veulent évacuer leurs marchandises et lorsqu'il y a une pirogue, une baleinière, une barge qui est pleine, on vous dit c'est plein, mais tout le monde pleure. Eh bien, voilà. Alors ça, c'est l'État qui doit corriger en montrant l'exemple. Et alors, ici, j'accuse la NAPI. Mm-hmm. Vous voyez, dans le décret de 2009, août 2009, il est dit ceci. La NAPI a pour mission d'œuvrer, tout ça, il y a beaucoup de choses. Et parmi les missions, il dit promouvoir les investissements publics. Aujourd'hui, vous pouvez poser la question à la NAPI, quels sont les investissements publics que la NAPI a essayé d'encourager? Il n'y en a pas. Et l'invité venait de dire qu'on a besoin des moyens pour faire la politique, et ainsi de suite. Mais les moyens, la NAPI en a eu, les moyens, le FPI en a eu, et ces moyens sont partis où? L'ONATRA a eu beaucoup de moyens, monsieur Nico, vous conviendrez avec moi qu'on a connu des détournements à l'ONATRA, et cet argent pouvait servir, par exemple, à résoudre les problèmes de drague.
Merci.
Quand vous prenez la rivière Kwilu, qui quitte Bandundu, c'est plein de sable.
Voilà.
Il y a des gens qui meurent à cause du sable.
Merci
les
beaucoup.
Dragues, il n'y en a pas.
Merci
donc,
beaucoup.
Je crois que la NAPI, le FPI et tous les politiciens sont dans le coup.
Merci beaucoup, Olivier de Kikwit. Nous allons nous rendre tout de suite à Kindu, où nous attend Abedi. Abedi, bonjour et bienvenue à Parole aux auditeurs.
Bonjour Nico, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de Radio Capé.
Quel est votre point de vue?
En fait, je suis désolé de constater que les problèmes continuent et vous l'avez évoqué, vous avez senti, vous avez consacré la deuxième émission successive sur la thématique.
Mmh.
Et vous avez vu qu'il y a toutes les réactions qui continuent à couler de partout pour répéter la même chose. Et nous avons toujours dit la même chose, mais ce que nous devons comprendre tous, c'est que il y a la force de l'État, et c'est ça les grands problèmes que nous déplorons, que nous devons pas trouver des solutions à cela. Vous savez, comme nous l'avons dit, pour trouver des solutions, vous avez dit, il n'est plus question de parler des causes, si on peut aller à des pistes de solutions. Je pense que nous devons commencer, il faut d'abord que le gouvernement qui va sortir avec le président de la République soit à mesure de placer chacun à la place qu'il faut.
Mmh.
Il faut qu'on commence par là. Pour gérer les transports, les voies de communication, il faut qu'on place à la tête de ces ministères un technocrate, qu'on place une personne qui connaît qu'est-ce que c'est les transports, quelles sont les normes qu'il faut faire à ce sujet, comme dans tous les autres secteurs d'ailleurs. Il faut que vous avez compris que tout le monde a indexé les agents qui sont là. Ce sont des agents qui ne se contentent pas de regarder la vie des gens qui partent dans l'eau. Leur problème, c'est de l'argent.
Mmh.
Ils ne posent pas des questions pour savoir est-ce que le tonnage est bien respecté, est-ce que l'embarcation est bien. Non. Leur problème, c'est qu'on leur donne de l'argent et ils laissent les personnes partir. Mais si vous remontez la filière, ces gens vont vous dire, voilà, nous travaillons dans quelles conditions, nous ne sommes pas pris en charge, l'État ne nous paye pas. Et donc, quand l'État ne les paye pas, ils ne sont pas identifiés au niveau de l'État. Voilà, ils prennent le pot de vin, ils prennent la corruption et ils laissent les embarcations partir.
Et du coup, ils ne font pas leur travail.
Pas seulement. Oui.
Et du coup, ils ne font pas leur travail. Oui.
Ils ne font pas leur travail parce que pour eux, ils ne sont pas récompensés, ils ne sont pas pris en charge, ils ne sont pas des agents payés. Et donc, l'État met des gens au service pour ne les paye pas. Mais c'est comme donner de l'arme à un militaire et on dit, on n'a pas de salaire à te donner. C'est ton arme qui est ton salaire. Donc,
voilà.
Tu terrorises les gens avec ça, tu as de l'argent. C'est la même chose avec les fonctions RDC. Regardez même dans les transports routiers. Regardez dans les transports terrestres. Si vous allez dans des barrières, il y a des gens qui sont là. Ils vous disent, nous sommes ici, mais on ne nous paye pas. Nous ne sommes pas pris en charge par l'État. Et donc, pour passer, on nous demande seulement de donner une certaine somme d'argent à verser par mois, et les restes c'est nous-mêmes qui nous prenons en charge avec ça.
Voilà, on revient donc à Bédi, à ce problème de corruption. Il faut donc mettre fin à cette corruption. On vous a bien suivi. Merci beaucoup à Bédi. Vous avez appelé de Kindu. Merci également à Dadi qui lui nous a laissé un message. Lui dit, un grand pays comme le nôtre ne manque pas l'argent pour payer les navires pouvant assurer le transport sur les cours d'eau congolaises. Ça fait mal de constater jusqu'ici que des compatriotes voyagent dans des conditions pas très bien et dans des histoires constituées faites en bois. C'est selon lui, il parle des navires faits en bois. Ce n'est pas qu'on n'a pas de l'argent, mais il faut que l'on pense à ça. Gracie nous écrit et il dit, la mesure la plus efficace pour finalement mettre fin à ce drame consisterait à appliquer en toute rigueur les différentes lots maritimes, car les pots de vin ou le phénomène Madesuyabana, qui est fréquent dans le transport terrestre, dans les chefs des policiers routiers, et aussi fréquent dans le chef des militaires marins qui sont censés régulariser les usagers des lacs et fleuves, les lois et les consignes pour prévoir les naufrages importent peu. Vous voulez donc intervenir dans cette émission, composez le 081 890 49 69 ou le 081 890 63 30.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Professeur Serge Pangou, vous avez suivi nos auditeurs, vous avez par exemple suivi Olivier de Kikwit qui est revenu sur ce que vous avez dit, vous avez évoqué un problème des moyens, vous avez dit qu'il faut fournir des moyens nécessaires pour déployer les équipes de la VRF, pardon. Et donc vous avez aussi insisté sur la formation, mais notre auditeur Olivier de Kikwit, lui, il souligne le silence de l'autorité. Il estime qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y aura pas de solution, il y aura toujours naufrage. Et même les moyens qui ont été attribués à l'ANAPI, dit-il, l'ANAPI n'en a rien fait. Donc aujourd'hui, on continue à parler des enquêtes interminables et du coup, la situation continue à s'empirer.
Oui, merci Rico, et merci à notre auditeur ou à nos auditeurs, même celui de Kindou a effleuré un peu le même problème. Mais pour moi, j'aimerais d'abord faire la part des choses. Vous voyez, l'ANAPI, et comment on appelle l'ANAPI et puis FTI. Mmh. Ce sont des fonds qui sont mis là, mais vous, quand on dit promotion industrielle, il dit c'est pour appuyer le secteur public. Je ne pense pas, parce que si vous regardez la structuration des conditions d'octroi de crédit de l'ANAPI ou du FPI, ces crédits-là sont remboursables, n'est-ce pas? Mmh. Et le problème pour la RVF, par exemple, c'est que la structure qui est mise en place, qui fonctionne aujourd'hui, n'est pas à même de rembourser un crédit. Mmh. Pourquoi ? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faille restructurer d'abord cette entreprise qui est au centre de la navigation de nos rivières et lacs. Simplement parce qu'il faut lui doter. Quand je parle des moyens, je parle des moyens pas seulement financiers, mmh. Pas seulement techniques, mais également des moyens humains mmh. et de moyens juridiques et administratifs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit essayer de renforcer la capacité de fonctionnement de la RVF.
Vous avez même fait allusion dans votre première intervention à la formation. Oui. Il s'agit là des moyens humains, des personnes formées.
Exact. Et en plus, il y a aussi moyen de se passer de l'ANAPI et du FPI en créant un fonds, je l'ai dit dans notre première émission, un fonds du genre FONER. Justement, un fonds pour essayer de collecter toutes les taxes des navigations qui tombent dans un même fonds comme on a fait sur la route. Vous avez vu que c'est avec le FONER que aujourd'hui, dans les 100 jours, on a pu piquer de fonds pour essayer de réhabiliter à l'urgence certains tronçons même de la ville de Kinshasa.
Mais selon vous, ce fonds va fonctionner comment? Parce que vous donnez l'idée.
Exact. Ce fonds-là, exactement comme sur la route, on mettrait, comme on dit, des stations de péage. Mmh. au sortir des ports ou à l'entrée, selon le sens dont l'on vient. Et sur les lacs, on les placerait sur des tronçons parce que toujours, il y a toujours des lignes de navigation. Donc sur ces lignes, il y a moyen de mettre de stations où on fait payer obligatoirement selon le tonnage des navires. Et ce serait également des points de contrôle de ce tonnage. De telle manière qu'on aurait des fonds permanents pour financer justement le développement de cette route fluviale, qui est au fait très compliquée. Pourquoi ? Je vous ai dit dans la première émission que, contrairement à la route terrestre, dans la route fluviale ou lacustre, il y a de l'eau qui est au-dessus et on ne voit pas la profondeur là-bas. Mmh. Et en profondeur là, il faut des études d'hydrographie, des études hydrographiques et hydrologiques, de sédimentologiques, et il faut la cartographie pour tracer la route. Ensuite, celui qui utilise cette route doit être guidé par des signaux de rive. Et ces signaux de rive, pour les lire, il faut être initié. Et pour conduire donc ces embarcations, il faudra suivre des cours, des formations obligatoires. Mais pour coordonner tout cela, j'ai dit qu'il faille d'abord, un, restructurer la RDF, lui doter de tous les moyens que nous venons de citer, et j'apprécie que notre ami de Kikwit parle de dragues. Oui, les dragues, ce sont exactement des équipements de balisage, parce qu'ils enlèvent, ils déblayent au fait le sable et les qui se trouve, qui encombre les voies de navigation.
Professeur, il y a, sans vous couper, il y a Diem Elenga qui vient de nous faire parvenir, oui, qui nous écoute en ce moment, hein, il vient de nous faire, oui, parvenir son message. Lui, oui, dit que le secteur de transport fluvial est d'intérêt public et lorsque le secteur est libéralisé, les privés visent plus leurs intérêts et c'est ce qui est à la base des naufrages à répétition.
Oui, mais écoutez, je dis non, le secteur de navigation, disons l'entretien et l'entretien et le balisage des voies fluviales n'est pas libéralisé. Mmh. C'est toujours entre les mains de l'État. La RVF, c'est une entreprise de l'État. Mmh. C'est une entreprise à caractère social d'abord. Mais je dis que les moyens mis en œuvre sont insignifiants. Je parle en tant qu'expert qui est fait un état des lieux, qui est vécu pendant des mois sur des baliseurs avec des travailleurs. Je sais dans quelles conditions ils travaillent, donc ce n'est pas à moi qu'on doit expliquer ça. Le vrai problème, c'est que il faut que le ministère de transport puisse mettre la RVF au même niveau qu'il met des entreprises comme la RVA. Parce que le ministère des Transports a tendance de négliger cette entreprise au profit de celles qui produisent plus de recettes. Or, comme dit notre auditeur, cette entreprise est au service de la nation, d'abord. Oui. Donc, il lui faille qu'on lui trouve une poche dans la caisse de l'État, c'est-à-dire un financement sûr et soutenu de l'État qui puisse l'aider à bien mener sa mission. Parce que je vous dis, lorsqu'on parle de corruption, mais quoi de plus normal ? On dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Ça signifie... Qu'est-ce qui ferait que, bon, quelqu'un, vous lui donnez du carburant pour aller mettre des signaux de rive, il a par exemple 5 000, 10 000 litres de gazoil. Il arrive en cours de route et lui-même n'a pas à manger.
Et il va se servir.
Et il fait quoi ? Il vend le carburant.
C'est clair.
Et puis, c'est clair. Ou alors, à la place d'embarquer les signaux de rive, il embarque des gens avec leurs marchandises, il les transporte, et puis il lui paye les argent pour que lui continue à manger.
Oui, mais tout cela, cette corruption et toute cette situation continue parce qu'il n'y a pas de sanctions, comme l'a évoqué un de nos auditeurs, et qui est même allé loin pour dire que ces personnes ne sont pas bien rémunérées.
Très bien, voilà. Simplement, il faut, Nico, qu'on se comprenne. Pour sanctionner quelqu'un, n'est-ce pas, il faut d'abord le mettre dans les conditions de travail qui sont requis, n'est-ce pas? Vous n'allez pas sanctionner quelqu'un à qui vous n'avez rien donné. Vous lui demandez d'aller au travail, mais le travail là, vous demandez à un agriculteur de vous produire 10 tonnes de maïs, mais en attendant, vous lui donnez qu'une houe, et puis vous lui dites, bon voilà, avec la houe là, toi tu t'as que...
Tu te débrouilles.
Oui, tu te débrouilles avec ça, tu trouves le terrain, tu le défriches, tu trouves les semences, et moi j'attends 10 tonnes de maïs. Est-ce que vous croyez qu'il leur vous ramènera 10 tonnes de maïs? C'est pas possible.
C'est pas possible.
Et donc, le problème, c'est d'abord, un, de soigner les grands mâles. Les grands mâles, c'est quoi? C'est que l'entreprise qui est commise à cette tâche est laissée pour compte. Ça, on ne doit pas se voiler la face, parce que nous sommes tous des Congolais. Laissée pour compte, cette entreprise utilise les frais de fonctionnement loués par l'État pour payer ses propres agents. Vous voyez?
Ce qui n'est pas normal.
Ce qui n'est pas normal. Et donc, cette entreprise doit être restructurée et sa politique revue de fond en comble pour que on puisse lui doter des moyens et des conditions de travail qui lui permettent d'être au-dessus des armateurs. Parce que jusque-là, comme a dit notre collègue de Kindu, notre confrère de Kindu, ce sont les armateurs qui imposent leur loi. Parce que eux, ils ont du cash sur eux, et vous avez faim, c'est votre route, d'accord, mais c'est celui qui vous dit, bon écoutez, dit, si moi j'embarque 3000 personnes sur mon bateau, vous, c'est pas votre bateau,
c'est pas votre,
votre affaire, voilà. Et pour vous taire, allez, voilà une enveloppe et foutez-moi la paix, allez. Et dès que vous réagissez, il appelle votre chef et il lui donne un peu plus. Et ça continue.
Voilà, merci professeur Serge Pangou. Gardez la ligne, on revient à vous. Germain nous appelle de Bandundu. Germain, bienvenue.
Merci beaucoup Pierrot. C'est Germain qui l'a dit à partir de la ville de Bandundu dans la province du Kwilu.
Vous avez suivi notre invité Germain qui a insisté, qui a fait une proposition très importante. Il parle de la création d'un fonds pour gérer, pour essayer de gérer ce secteur. Vous pensez que ça serait une solution durable?
Oui, effectivement, c'est une des solutions, mais outre les solutions qu'il a données, moi je voudrais aussi vous proposer vous dire que excepté la voie fluviale, excepté cette voie lacustre, il y a aussi des routes secondaires qu'il faut nécessairement réhabiliter. Si je suis bien que je sois à Bandundu, je connais bien le Sud Kivu. Une fois que vous êtes à Goma, il y a une route
Germain,
de Goma Sake, oui.
Germain, je comprends bien votre problème, mais ici nous parlons des mesures à prendre pour qu'il n'y ait pas des naufrages. C'est important de réhabiliter les routes, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que vous pouvez rester sur le sujet et essayer de nous donner, selon vous, les mesures qu'il faut prendre pour mettre fin à ces naufrages?
Effectivement, les mesures, c'est tel que donc le professeur venait de le dire. Moi, à mon avis, je pense que si réellement, une fois que l'État se met en marche, parce que le gouvernement que nous avons actuellement, il vient d'hériter un pays qui est déjà chaotique. Si une fois à la tête, déjà, il y a des hommes qui sont sérieux, qui mettent du sérieux dans tout ce qu'ils sont en train de faire, à ce que le moyen soit affecté dans ces services, moi, à mon avis, je pense que tout le monde se mettrait au travail. Parce que à l'heure où nous vous parlons, Pierrot, allez vous imaginer dans nos ports, même ici à Bandundu, c'est vraiment très, très ridicule. Quand vous y allez, vous trouverez que donc les gens qui y sont là, ils ne sont que pour des petits pourboires, mais ils ne se mettent pas au travail. Mais une fois que les moyens sont mis vraiment à leur disposition, à mon avis, je pense que comme déjà à la tête, il y a du sérieux, et tout le monde va se mettre au travail.
Merci Germain. Germain depuis Bandundu insiste sur un problème des moyens, et il faut également qu'il y ait le sérieux dans le chef de ceux qui sont censés diriger ce ministère. Demain, Michel nous appelle de Kalemie. Michel, vous voyez les choses comme Germain qui vient de nous appeler de Bandundu? Michel, vous êtes là? Voilà, nous avons perdu Michel qui nous appelait de Bandundu. Nous allons essayer de le retrouver dans quelques instants. Le temps pour nous de découvrir ce message de Christian Politassi qui nous écrit et lui propose, pour mettre fin à ce genre de drame, il propose de prime abord qu'il faudra identifier et enregistrer tous les navires flottant sur les eaux congolaises selon leur milieu et objet d'exploitation. Autrement dit, chaque province se donne l'obligation de recenser tous les navires flottant sur sa contrée pour permettre au gouvernement central d'avoir une idée nette et claire sur le nombre des navires et leur raison sociale. Deuxièmement, il faudra obligatoirement acheter les transporteurs, l'achat par les transporteurs, pardon, et le port par les passagers des gilets de sauvetage, dont la même optique, il faudra également savoir réellement la capacité d'accueil de chaque navire afin de faire respecter le nombre de passagers requis et limiter les risques de chavirement. Troisièmement, interdire l'exploitation nocturne pour les navires n'ayant pas les phares pour l'éclairage. Notre invité est revenu là-dessus. Enfin, le gouvernement doit baliser dans la période plus ou moins raisonnable les cours d'eau du territoire national. En même temps, il doit avoir ses propres navires afin d'avoir un contrôle sur le flux d'une part et de maximiser ses recettes et la création d'emplois d'autre part. Pichu, vous êtes dans le Kwilungongo. Bonjour et bienvenue.
Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous nos invités.
Alors, vous avez suivi la réaction de Christian Politassi qui, lui, pense qu'il faut commencer par identifier et enregistrer tous les navires flottant sur les eaux congolaises selon leur milieu et objet d'exploitation.
Tout à fait. Il est question là de mettre de l'ordre. Dans un pays, s'il n'y a pas de l'ordre, ça ne marche pas. Ici, je voudrais ici soulever quelque chose de très important. Vous savez, aujourd'hui, le peuple congolais doit arrêter de faire figure des parents pauvres. Nous sommes un pays richement béni et les autorités qui nous dirigent, les gouvernements qui sont mis en place doivent considérer la population en priorité. Sécuriser la population est une loi fondamentale dans notre constitution. Mais vous allez vous rendre compte que le gouvernement, c'est comme un démissionnaire, c'est comme un irresponsable. Vous imaginez, au 21e siècle, les gens perdent la vie rien qu'en traversant une rivière. Et si c'était des océans, qu'est-ce que ça allait devenir? Ici, je voudrais aussi soulever quelque chose de très important. Nous avons besoin, n'est-ce pas? Vous savez, tout ce monde-là qui crée des baleinières, qui montent, je ne sais pas moi, des affaires dans les baleinières, sont dans des difficultés pour le renouvellement de leur matériel. Parce que le bois dans l'eau, le bois ne dure pas trop longtemps. Et il doit y avoir un contrôle technique. À chaque période fixée, il doit y avoir des contrôles techniques, parce que vous savez, le bois, ce n'est pas en fer. Le fer, plutôt, même le fer, quand ça croise une pierre dans l'eau, ça se détruit.
C'est clair. Et
quand même que c'est un bois, vous vous rendez compte qu'est-ce que ça va devenir. Vous voyez? Donc, tout ce monde qui meurt là, moi je trouve que c'est le gouvernement qui est d'abord le premier responsable, partant du fait qu'il y a des lois qui existent dans la voie navigable, il y a des lois qui existent. Il suffit seulement de mettre en place des gens capables de ne pas être corrompus. Parce que ceux qui sont là, ils sont tout le temps corrompus. Vous vous rendez compte? Et une baleinière qui quitte la nuit, il y a des transits par-ci par-là, et là où ils passent, il y a des responsables de navigation qui sont là, mais ils les laissent passer. Et c'est là aussi au vu de tout le monde.
Voilà.
Et après, quand il y a un naufrage, vous vous rendez compte.
C'est une négligence, vous avez dit. On a noté que vous insistez sur l'ordre dans ce secteur. C'est important, c'est une des mesures importantes selon vous. Et il faudra également essayer d'instaurer un contrôle technique dans ce secteur pour essayer de voir comment ça se passe. Merci beaucoup Pichou depuis Kwilungongo. Louis qui est en ligne. Louis, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Bon, Louis, vous êtes à Kikwit et vous pensez qu'il faudra, c'est le message que vous nous avez laissé sur notre page Facebook, vous pensez qu'il faudra d'abord déceler les causes de tous ces naufrages avant de parler des mesures, et ce sont les mêmes causes sur les routes que sur les eaux de la République démocratique du Congo. Vous pensez qu'il n'y a pas de différence, il y a la surcharge, le vieillissement des embarcations, la navigation nocturne, l'impunité et les intempéries.
Oui, je parlais de cela parce que si vous voyez bien, il n'y a pas de différence entre les routes de la République démocratique et les eaux de la République démocratique. Les accidents se font comme ça. Il n'y a pas un contrôle rigoureux dans ce secteur-là. Donc c'est les mêmes effets, les mêmes accidents qui se font sur la route et les mêmes accidents qui se font sur les eaux de la République démocratique du Congo. Mmh. Parce qu'il y a impunité. On n'a jamais entendu qu'on a puni les propriétaires de ces baleinières-là. Et puis, les agents même, s'ils devraient réglementer la navigation, ils ne le font pas. On se demande, mais pourquoi tous ces services-là? Ils sont là pour réglementer seulement l'argent. Et au lieu de réglementer la navigation sur les rivières et les eaux de la République démocratique du Congo.
Merci beaucoup.
Alors, il faut vraiment punir tous ces gens-là. Il faut punir tous ces gens-là pour un peu réglementer toute la situation, pour remettre la situation en ordre. Il faut au moins qu'il y ait une punition pour tous ces gens.
Une punition, vous avez insisté. Merci beaucoup. Merci monsieur Louis depuis Kikwit, on a noté que vous avez insisté sur la sanction, sur l'impunité, parce que il y a également un autre auditeur, je crois que c'est Olivier qui est revenu là-dessus. Et Miko Kaz depuis Kinshasa, vous gardez la ligne. Alors professeur Serge, vous venez de suivre donc notre ami qui vient d'intervenir, je crois que c'est Pichou qui a parlé de ça, qui était dans le Kwilungongo, qui est revenu sur l'ordre qu'il faut mettre dans le secteur, il vous a rejoint, mais il a insisté sur le problème de contrôle technique. Et beaucoup d'auditeurs reviennent sur l'impunité. Il n'y a pas de sanction.
Oui. Merci, Nico, mais merci à notre auditeur. Mais je crois que quand j'ai énuméré les causes profondes, j'ai commencé par le contrôle. Mmh. Quand je parle de contrôle, je parle de contrôle technique d'abord. Mmh. Et le contrôle de sécurité fait partie du contrôle technique. Mmh. Mais lorsqu'on parle de péage, regardez... aujourd'hui, je vous donne un exemple hein, qui a été réalisé aujourd'hui dans notre pays. Il y a la sortie, disons, la frontière de Kasumbalesa où il y a beaucoup d'échanges entre le sud et l'Afrique centrale. Qu'est-ce que l'État a remarqué? Que les tonnages n'étaient pas très bien, le trafic n'était pas bien contrôlé. Vous avez vu qu'on a mis un portique là-bas, n'est-ce pas? Pour essayer d'identifier d'abord les transporteurs et ensuite d'estimer rapidement leur tonnage. Mmh. Donc cela est faisable également sur nos voies fluviales. Mmh. Je vous dis, vous voyez que tous nous rejoignent un peu parce que il n'y a pas d'autres mesures qui seraient comme venues du ciel pour arranger la situation. La punition, ça c'est clair. Mais quand est-ce qu'on punit? C'est quand on contrôle. Pour
oui.
moi, d'abord, un, commencer par restructurer. Deux, mettre en œuvre une nouvelle politique d'exploitation de voies. Et essayer de reviser un peu, adapter l'ancien règlement ou l'ancienne réglementation. et enfin faire une campagne de sensibilisation.
Et ça, c'est très important. Professeur, oui. on revient à vous pour conclure. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous allons d'abord accorder la parole rapidement à Emiko qui nous appelle de Kinshasa. Emiko, bienvenue.
Bonjour, monsieur Pierre-Olamé.
Vous avez une minute, Emiko.
Ok, donc juste espoir. Nous sommes en train de parler de choses très 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 sérieuses, c'est très bien, mais je vais vous donner espoir une petite blague, avec votre permission. Oui. Alors, à Kinshasa, vous voyez dans sur les, un mur, à côté d'un souci, interdiction d'uriner, c'est Pekisa Mikosubao. Si vous faites ça, vous payez 100 francs. Mmh. Il y a un monsieur qui vient, il est en train d'uriner. Un policier vient et lui dit, ben monsieur, c'est interdit de rien ici. Alors vous devez payer 100 francs. Le monsieur fait sortir un billet de 200. Il dit, non, appelle aussi vos amis, vous faites, vous irez non aussi, comme ça je reste avec les 200. Alors je crois que vous avez compris la blague.
Oui.
Alors c'est la même chose sur les transports, que ce soit routier, fluvial, aérien. Même sur les avions aussi à Kinshasa, la même chose. Si vous y arrivez, il y a, à l'époque bien sûr, pour le moment je n'ai pas encore vérifier, vous allez voir, n'est-ce pas, un avion qui transporte des avions qu'on appelle des fret. Un avion de fret, vous allez voir, à l'aéroport international d'Engili, il y a des policiers, il y a des officiers, ainsi de suite. On est en train de donner l'argent, je ne vais pas citer les compagnies.
Oui, rapidement, rapidement, quelles sont les mesures? Quelles sont les mesures? On va atterrir, oui.
Moi, d'abord, les responsabilités sont partagées, que ce soit du côté de l'État, les armateurs et puis les clients.
Voilà.
Si, par exemple, au niveau du bateau, par exemple, au niveau de lac Kivu, moi, je viens de là, si, par exemple, vous êtes à Goma, vous prenez un bateau tel que Yussi, c'est bien contrôlé, on ne peut pas. Si, par exemple, vous trouvez que non, il y a déjà, c'est déjà fou, c'est terminé. Vous ne pouvez pas commencer à les corrompre.
Voilà, merci beaucoup. On a bien compris, donc, il y a un problème de contrôle. Notre invité est revenu là-dessus plus d'une fois. Michel, vous avez une minute avant qu'on puisse conclure avec notre invité. Vous nous appelez de Bandundu. Michel?
Allô?
Michel, vous êtes là? Vous avez une minute, rapidement. Oui. On vous écoute.
Je voulais dire ceci. Oui. Le problème, vous êtes en train de préconiser des mesures, n'est-ce pas?
Oui.
Je pense qu'on doit mettre un accent très particulier sur d'abord la formation.
Michel, vous pouvez baisser le son de votre radio, s'il vous plaît, parce que vous êtes en train de vous écouter à la radio et du coup, on ne vous entend pas très très bien. Vous mettez du temps pour répondre à nos questions. Oui, rapidement. Voilà. On a un petit problème, hein. On a un petit souci avec la ligne de Michel qui nous appelait de Bandundu. On va conclure avec le professeur Serge Mpangu qui était notre invité. Professeur, vous avez suivi ces deux derniers auditeurs et ça sera en même temps votre conclusion. Qu'est-ce qu'on retient?
Oui, on retient, Nico, que d'abord, hein, que l'État doit, primo, commencer par mettre des moyens financiers, nous avions dit, techniques et humains, à même de permettre à la régie de voies fluviales et à la STP de conduire convenablement leur mission. Deuxièmement, il faille qu'il y ait un contrôle sérieux du point de vue technique et surtout du point de vue de compétence des navigants. Et trois, il faille qu'on dote également à la RVF d'un fonds permanent qui serait du genre FONER, c'est-à-dire fonds national, disons, d'entretien de voies fluviales, par exemple. Mmh. Voilà déjà le label. Mmh. Et mettre également, dire à la STP, ou lui donner les moyens pour que ces ports fluviaux soient remis en service.
Remis en service. Merci.
Très sérieux.
Merci beaucoup.
Et, oui, et puis, il faut que le réseau qu'on est en train d'un, que la, le PANAV a permis à la RVF d'implanter sur le Kassai et sur le fleuve, soit étendu sur les lacs.
Étendu sur les lacs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Vous étiez notre invité. Je rappelle que vous êtes géographe et hydrologue, consultant. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous d'avoir suivi ce Parole aux auditeurs. On vous retrouve avec le même plaisir demain à 11h pour un autre numéro. Ce numéro de Parole aux auditeurs était mise en onde par Polydor Basunga et réalisé par Pierrot et Lamégie. Je suis Nico Kalambay. Bonne suite de nos programmes.